Des immunités de poursuite et privilèges de juridiction. Entre 2012 et 2017, sur 98 réquisitoires du ministère public introduits au Parlement pour obtenir la levée de certaines immunités et permettre l'ouverture des poursuites, il n'y a eu que 7 qui ont reçu suite. C'est ce que révèle le premier président de la Cour de cassation à l'occasion de la rentrée judiciaire de cette Cour le 15 octobre dernier. Mukendi David Christophe propose de revoir ses immunités et privilèges, car, pense-t-il, cela est devenu une des causes de l'impunité qui ne contribue pas à l'évolution de l'état de droit. Qu'est-ce qu'on entend par immunité et privilèges de juridiction? Qui en sont bénéficiaires et pourquoi? Dans quelle mesure peut-on réformer ce régime? Voilà la problématique des immunités de poursuite et privilèges de juridiction sur laquelle le droit et citoyenneté d'aujourd'hui se penchent. Jeff Ngoyi Mulonda coordonne et présente ce magazine. Bienvenue à tous. La problématique des immunités de poursuite et privilèges de juridiction. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs en parle. Et pour commencer, nous vous proposons de suivre cet extrait du discours du premier président de la Cour de cassation qui soulève la nécessité de réformer la loi irrelative.
Les immunités de poursuite et les privilèges de juridiction présentent des effets néfastes. Nous pensons qu'il faut absolument réformer leurs règles, car nul n'a de droit acquis au statu quo, et l'idée d'une réforme ne fait outrage qu'à ceux qui ne supporteraient pas d'être privés d'un droit contestable.
Ce haut magistrat dénonce donc les effets pervers de ces immunités qui ne devront plus se limiter qu'aux opinions émises pendant l'exercice des fonctions parlementaires. Nous recevons Thomas Ochoudi, conseiller à la Cour de cassation. D'emblée, nous voudrons savoir ce que c'est une immunité, ce que c'est un privilège de juridiction pour le commun des mortels.
En effet, l'immunité est une cause définitive d'impunité qui rend impossible toute poursuite d'un individu devant les juridictions. C'est autant dire que l'immunité est une cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur d'une infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite alors que la situation créant ses privilèges a pris fin. Davantage, je dois dire, pour me faire comprendre, que les immunités prennent en compte de différences des situations, tenant par exemple à la famille, à l'activité judiciaire ou au rôle politique. S'agissant plus précisément des immunités qui tiennent au rôle politique, il faut comprendre tout de suite qu'elles sont présentées comme indispensables au bon fonctionnement des institutions dès lors qu'elles constituent une protection permettant à une personne de ne pas être soumise à l'application du droit commun en vertu de sa qualité officielle. En plus, je dois apporter quelques précisions sémantiques, dans la mesure où les immunités impliquent à la fois l'inviolabilité et l'irresponsabilité. L'inviolabilité, il faut les relever, est une protection spéciale attachée à la fonction. Et cela nous plonge dans une situation d'impossibilité d'interpeller, d'arrêter ou de restreindre la liberté du bénéficiaire de celle-ci, donc de l'immunité, sans autorisation préalable à la suite d'une demande formulée par l'officier du ministère public. Je disais tantôt que les immunités impliquent aussi l'irresponsabilité. Et l'irresponsabilité, en ces cas, est entendue comme une immunité absolue qui soustrait les bénéficiaires des poursuites pour les actes liés à l'exercice de ses fonctions. En tout état de cause, je dois dire que les immunités des poursuites sont rendues indispensables pour assurer le maintien et le bon fonctionnement des institutions. Mais qu'en est-il du privilège de juridiction? En un mot, il faut dire que les privilèges de juridiction et les droits donnés à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétences. Voilà en somme ce que je peux dire des immunités des poursuites et des privilèges des juridictions.
Et qui en sont bénéficiaires?
En somme, les bénéficiaires sont notamment les membres du Parlement, députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement autres que les premiers ministres, les membres des assemblées provinciales, les gouverneurs de provinces, les vice-gouverneurs de provinces et les ministres provinciaux. Voilà.
Mais avec quel mécanisme, quelle possibilité peut-on concrétiser, matérialiser cette proposition formulée par le premier président de la Cour de cassation?
Bien évidemment, monsieur le premier président de la Cour de cassation, Mukendi Musanga David Christophe, a eu le mérite, à l'occasion de la rentrée judiciaire pour l'exercice 2000-2021, de mener une réflexion sur la nécessité de la réforme des règles de procédure répressive relatives aux immunités de poursuite et aux privilèges de juridiction. D'emblée, à cette occasion, il a démontré que la coexistence entre les immunités de poursuite et les privilèges de juridiction et la lutte contre l'impunité pose un véritable problème. Il a aussi relevé que ces immunités donnent à certaines personnes qui en sont bénéficiaires, bien évidemment, l'espérance de l'impunité. Et il a ajouté que ces immunités de poursuite font de ces personnes une classe de intouchables. Et parce que il a martelé sur les faits que ces immunités de poursuite donnent à leurs bénéficiaires une espérance de l'impunité, il a davantage souligné, en empruntant une expression de saint Augustin, qui a dit que l'espérance a deux magnifiques enfants, la colère et le courage. La colère face aux choses telles qu'elles sont et le courage nécessaire pour les changer. Donc, monsieur le journaliste, comment ne pas être en colère, par exemple, face à l'indifférence et au refus systématique des assemblées de donner suite aux réquisitoires du ministère public tendant soit à autoriser les poursuites, soit à lever les immunités. C'est pourquoi le premier président de la Cour de cassation a mené cette réflexion pour inspirer de legiferinda pour un droit à venir, des propositions ou des projets de loi. Et cela s'explique, car dans une société à vocation égalitaire, on constate, comme c'est le cas dans notre pays, que le ministère public, organe par excellence des poursuites, est parfois privé de la possibilité d'engager immédiatement l'action publique. Et cela donne l'impression aux profanes que notre société renonce parfois à sa mission régulatrice de l'ordre social ou apporte une discrimination à la répression en faveur des personnes exerçant les hautes fonctions étatiques. Et il a pu constater que cette impunité traduit en réalité l'imperfection de notre législation, des procédures pénales qui renferment des germes de l'impunité. Et il a exploré quelques pistes de solutions. Je dois souligner aussi une chose, que à cause des impunités, l'opinion a tendance à croire que la justice a pour cible la petite délinquance et qu'elle met toujours en branle sa machine pour de petites affaires. Et même plus étonnant, l'opinion parfois cause des immunités, des poursuites ou de la lourdeur de mécanismes tendant à lever, par exemple, les immunités, disais-je, l'opinion risque parfois même de penser que mieux vaut détourner des deniers publics que voler, par exemple, une chèvre de voisin. Voilà, en gros, le facteur justificatif de cette réforme projetée, parce que ce n'est qu'une réflexion, et aussi le premier président de la Cour de cassation a tenu à relever les effets pervers de l'état de notre législation en rapport avec les immunités. Et à ce sujet, pour faire évoluer les choses, il a relevé une chose très importante. Il a dit que pendant très longtemps a prévalu l'idée selon laquelle les droits se devraient d'être hermétiques au passage du temps. Cependant, se plaçant en rupture avec les mythes d'une conception intemporelle du droit, elle appréhende les normes, mais également leur interprétation, comme faisant partie d'un droit vivant, soumis à des évolutions constantes, loin de cette époque où Montesquieu considérait qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante. Ce n'est qu'une réflexion qui fait débat et l'espoir est là de voir un jour un membre du Parlement s'approprier des idées lancées par M. le Premier Président pour prendre une initiative législative.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15. Droit et citoyenneté.
La problématique des immunités de poursuite et privilèges de juridiction. Écoutons maintenant les concernés. La députée nationale Nelly Mwinga réagit au débat soulevé par le premier président de la Cour de cassation.
En effet, à l'occasion de la rentrée judiciaire le 15 octobre dernier, le premier président de la Cour de cassation a proposé la suppression des immunités parlementaires. L'immunité parlementaire est une disposition du statut du parlementaire qui a pour objet de le protéger dans le cadre de leurs fonctions de mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou du pouvoir privé et de garantir leur indépendance et celle du Parlement. Chez nous, en RDC, c'est l'article 107 de la Constitution qui consacre ces immunités. Les articles 101 et 102 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale le reprend aussi. À bien lire ces dispositions, on comprend qu'il s'agit des immunités judiciaires qui sont de deux sortes. Il y a d'abord l'irresponsabilité et ensuite l'inviolabilité. L'irresponsabilité ou immunité de fond ou encore fonctionnelle protège le parlementaire de toute poursuite pour des actions accomplies dans l'exercice de son mandat, non détachable de ses fonctions, tandis que l'inviolabilité ou immunité de procédure vise les activités extra-parlementaires détachables de ses fonctions. Un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure coercitive au sens strict à son encontre nécessite la main levée de son immunité par ses pairs. À mon avis, on ne peut même pas débattre sur ça, parce que tout d'abord, ce n'est pas seulement chez nous que ça existe. Presque tout le pays qui y ont l'institution parlement consacre ce statut. Ensuite, il n'y a pas que le parlementaire qui bénéficie des immunités, le ministre, le président de la République. Le premier président proposera-t-il aussi la suppression de ces immunités-là et, allant plus loin, la suppression de tout le privilège de juridiction? Le parlementaire étant les représentants du peuple, il doit nécessairement être protégé. Et enfin, il ne faut pas confondre immunité à impunité. De toute façon, ça fonctionne tellement bien jusqu'à présent, puisqu'on a eu des parlementaires qui ont été condamnés après que leurs immunités aient été levées.
On revient une fois de plus à Thomas Otchoudi, conseiller à la Cour de cassation.
Selon Montesquieu, vous venez de bien le dire, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Vous avez aussi évoqué, en expliquant ces immunités, ces privilèges, les raisons d'être. Doit-on maintenant les supprimer? C'est ça?
Oui, mais cela s'explique par le fait que si, en ce temps-là, Montesquieu pensait qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante, cela n'est plus le cas aujourd'hui. À l'épreuve du temps, le droit doit évoluer. Sur la même question, il y a partout ailleurs des évolutions significatives. Et dans notre pays, le premier président de la Cour de cassation se référa à un constat fait en son temps par un des procureurs généraux de la République qui a connu notre pays. Il a donc relevé, par exemple, qu'entre 2012 et 2017, sur 98 réquisitoires introduits, il n'y a eu que 7 qui ont reçu suite. Voyez-vous? Donc, ce qui est même étonnant, c'est que à l'occasion de l'examen des réquisitoires du procureur de la République, parfois, les assemblées législatives s'érigent en juridiction de fond, portant même un jugement des valeurs sur les faits dont est présumé un membre d'une assemblée, ce qui ne rentre pas dans leur rôle. C'est pourquoi les premiers présidents...
Et cela augure des relations tumultueuses entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.
Chaque pouvoir, il faut le rappeler, est un... la règle de séparation des pouvoirs. Je ne conçois pas que chaque pouvoir, dans son rôle, puisse entretenir des relations tumultueuses avec un autre pouvoir. Mais il doit exister tout de même aussi un dialogue entre pouvoirs. Si il est question de faire évoluer notre législation pour lever tous ces obstacles aux poursuites qui donnent l'impression de l'impunité, je crois que cela ne doit pas être entendu comme une relation conflictuelle ou tumultueuse entre les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs législatifs. Même si c'est de membres de parlement qu'il s'agit, parce que d'aucuns peuvent penser, et vous le pensez d'ailleurs aussi, que ce sont les parlementaires qui sont investis du rôle de légiférer.
Comment est-ce qu'une telle proposition, une telle réforme peut passer auprès de ceux qui sont habilités à légiférer et qui veulent se protéger?
Mais ceux-là sont investis d'un mandat du peuple. Et le premier président de la Cour de cassation, parlant des facteurs justificatifs, a démontré ce que pense l'opinion face aux immunités des poursuites et aux privilèges de juridiction. Quand on est investi d'un mandat du peuple, c'est qu'il faut faire la volonté du peuple, parce que, appelé à légiférer, les lois qui sont votées au Parlement sont d'intérêt général. Pourquoi cela les gênerait-il? Cela ne peut gêner que ceux qui pensent qu'ils sont détentaires d'un droit indu. C'est une réflexion lancée par M. le Premier Président qui suscite un débat et qui est de nature à inspirer ceux-là qui peuvent prendre des initiatives. Je ne pense pas que cela puisse gêner, parce que tout simplement, le Premier Président de la Cour de cassation, dans sa réflexion, après avoir démontré les effets pervers des immunités, puisse considérer que les membres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et ceux des assemblées provinciales, ne bénéficieraient désormais des immunités de poursuite que pour les infractions commises à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais essayez de vous en informer. Ça se passe déjà ainsi ailleurs, en France. Par exemple, pourquoi cela générait les députés congolais? Veulent-ils demeurer dans ces immunités et penser que ces immunités les protègent envers et contre tout? Je ne le pense pas. Quand le Premier Président dit aussi que les membres du gouvernement, autres que les premiers ministres, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que les ministres provinciaux, ne seront plus bénéficiaires de l'immunité de poursuite pour les actes accomplis dans ou en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Vous êtes journaliste, essayez de prendre la juste mesure de ce que pense l'opinion de cette réflexion de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Vous vous rendrez bien compte qu'il s'est placé du bon côté de l'histoire.
Le point de vue d'un avocat, Maître Peter Ngoma.
Je pense que c'est une décision politique parce que les immunités, c'est toujours les politiciens qui l'ont décidé. Mais sincèrement, dans notre cas ici, je me dis que c'est par ce qu'on peut appeler une solidarité négative. Parce qu'on n'est pas député, on n'est pas sénateur pour constituer une certaine barrière, une certaine impunité. Parce que dès lors que la justice vous dit que nous avons besoin de tel, puisqu'il appartient à votre assemblée ou au niveau du Sénat, vous les livrez, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui chez nous, puisque les gens se sont constitués en caste, un petit groupe là des criminels, aujourd'hui les gens se réfugient. Parce que ceux qui se retrouvent aujourd'hui au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui étaient gestionnaires hier, c'est pour éviter en fait pour ceux qui sont partis là-bas. Parce que si ce n'était pas les cas, ils ne seraient pas là-bas. Ce n'est pas pour de l'argent, non. Il y en a qui en ont suffisamment, qui n'en ont pas besoin de ça. Mais c'est dit que non. En étant député, en étant sénateur, ils seraient couverts par une immunité. Donc s'il y a une procédure contre moi, surtout par exemple aujourd'hui qu'on est du FCC. Donc, là, il serait garanti. Vous voyez ? Or, personne, je me dis, et alors personne ne peut empêcher que la justice puisse se rendre parce qu'on nous dit une certaine immunité. C'est pour cela que moi, je suis d'accord qu'on puisse abolir cette histoire d'immunité-là.
Mais qui doit abolir ça ?
Non, mais c'est toujours au député de le voter.
Mais les députés, ils veulent se protéger. Ils doivent garder ça puisque ça les protège.
Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est écrit même dans la Constitution. Non, mais nous pouvons, nous, en tant que citoyens, même par voie de pétition, demander cela. On peut également le contourner. N'est-ce pas? Nous pouvons également demander ça. Non, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, imaginez-vous tous les autres là, on bloque. Non, pourquoi ne pas bloquer? Je peux vous donner le cas de Dominique Strauss-Kahn en France, qui avait été à l'époque ministre des Finances, Budget et Économie. Quand il a été mis en cause dans le dossier INEF, vous voyez un méga ministère, le ministre, parce qu'il était aussi avocat, dit que non, il aurait surfacturé. Il a démissionné. Il s'est livré devant la justice et après il a été acquitté. Vous voyez?
Là, c'est dans des pays les plus démocratiques.
Pourquoi pas chez nous? Pourquoi? Non. Mais si on a bien géré, on a peur de quoi? Vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi ils doivent se cacher par là?
Et selon le premier président de la Cour de cassation, toutes ces personnes qui bénéficient des immunités doivent être justiciables des tribunaux de grande instance. Elles ne doivent pas avoir des privilèges de juridiction.
Non, mais privilèges, peut-être parce que par rapport à leur position, oui, hein, parce que vous n'allez pas juger...
Sauf le premier ministre et le chef de l'État.
Bon, oui, mais j'ai dit tout simplement que tout cela dépend d'une décision politique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, vous pensez que s'il y a une autre majorité qui s'est dégagée, cela ne peut pas passer? Si effectivement aujourd'hui les actuels gouverneurs décidaient que ça se passe, mais ça va se passer. Mais tant que nous aurons cette majorité de FCC, là ça sera difficile. Mais si demain la majorité changeait, et avec cette ouverture-là que le premier président a donnée là, mais pourquoi pas? Parce que tout le monde se dit qu'aujourd'hui l'impunité zéro. Mais aujourd'hui vous avez de ces gens qui se sont retrouvés et au Sénat et à l'Assemblée nationale, ils disent que non, tant que je suis là, je suis protégé et autres. Mais je demanderai même au PG, puisque l'on est le cas. On n'a qu'à attendre la fin du mandat, les jours, ça va finir. Le lendemain, il faut envoyer autant de mandats d'amener. Il faut rattraper tout ce monde-là. Et dès que vous l'aurez rattrapé, directement en prison. Et vous allez fixer leur dossier. C'est pas un problème. D'ici 3 ans, le mandat va finir, non? Mais le lendemain, c'est quand le mandat prend fin. C'est fini. Même quand vous êtes candidat, vous serez candidat député, mais vous ne serez plus député. Donc il y a toujours moyen de faire ça.
Thomas Otchoudi, peut-on évoquer quelques effets pervers de ces immunités?
Les effets pervers de ces immunités sont innombrables. Je crois que le premier président qui les avait évoqués à cette occasion avait même suscité beaucoup d'applaudissements quand il avait dit, par exemple, que les immunités privilèges donnent l'image d'une justice timide devant les pouvoirs ou complice, allais-je dire, de ses abus. Et aussi, paraphrasant le tout premier procureur de France, Jean-Louis Nadal, qui pensait que à cause des immunités, on risque de croire que les pouvoirs de la justice se transforment en justice du pouvoir. Le premier président a aussi relevé que les degrés de l'état de droit qui est en train d'être restauré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit se mesurer, non pas dans les paroles, mais dans les faits. Et je dois dire aussi qu'il a souligné que cela doit se passer, pas uniquement sous l'emprise des cours suprêmes, mais dans le plus petit tribunal, pas seulement pour les pauvres, mais aussi pour le plus puissant.
Et c'est ça même l'égalité de tous devant la loi.
Exactement, un principe d'ailleurs à valeur constitutionnelle, consacré non seulement par notre constitution, mais aussi par les instruments juridiques internationaux. Et sur les effets pervers, il y a aussi un point important souligné par le premier président de la Cour de cassation quand il a dit que l'inflation des immunités fait que les procédures ordinaires occupent une faible place et que les procédures exceptionnelles deviennent de plus en plus importantes, de sorte que notre loi des procédures pénales, qu'il faudra peut-être réformer, n'est plus en fait qu'une longue suite d'exceptions de nature à retarder les poursuites. Pourtant, monsieur le journaliste, la justice, l'un des piliers de l'état des droits, sinon le pilier le plus essentiel, comme a eu à le souligner le premier président de la Cour de cassation, peut avoir de très bonnes raisons d'agir dans l'urgence en phase de poursuite et éventuellement permettre au juge de trancher rapidement plutôt que de s'enfermer dans deux immunités pour lesquelles, quand des demandes d'élevés sont présentées, le suite à y donner tarde à venir.
En conclusion, que peut être la portée de ces messages sur la vie publique, la vie politique?
Ces messages, ces discours s'inscrivent dans le contexte de la restauration de l'état de droit. Dans ces contextes donc, vous comprenez, messieurs les journalistes, que les Congolais ont besoin d'une justice de qualité, particulièrement du point de vue de la célérité dans les traitements des affaires. Car la lenteur observée, je l'ai redit, à cause de ces immunités ou des contraintes procédurales est préjudiciable à la réalisation de missions de la justice dans un état de droit. Donc, pour la population, on ne peut pas, comme l'a dit M. le Premier président de la Cour de cassation, s'accommoder d'une situation qui contribue à fragiliser la justice et qui laisse celle-ci se réfugier dans sa tour d'ivoire à cause des autorisations de poursuite, comme je venais de le dire, qui tardent à venir ou qui ne viennent pas tout simplement du Parlement. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, il faut comprendre que le débat est lancé, il est question de s'en approprier. Mais à ce stade, nous avons tenu à expliciter les idées fortes développées par M. le Premier Président de la Cour de cassation relativement au thème développé à l'occasion de la rentrée judiciaire sur la nécessité de la réforme de règles de procédure répressive relatives aux immunités de poursuite et aux privilèges des juridictions, lequel thème a eu des échos, je l'avoue, très favorables.
Voilà, droit et citoyenneté, recevez Thomas Otchoudi, conseiller à la Cour de cassation.
Nous venons là de parler de la problématique des immunités de poursuite et privilèges des juridictions à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation le 15 octobre dernier. Droit et citoyenneté d'aujourd'hui est terminé. Merci de nous avoir suivis.